Bien, un psaume pour notre méditation de ce matin. Je vais le lire sans vous dire pour l'instant de quel psaume il s'agit. Oh, vous pourriez le deviner certainement, mais c'est pour que vous soyez concentrés sur l'écoute et sur ce que ce psaume va vous dire lui-même d'emblée. Je vous le lis. Au chef de cœur, à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Psaume d'Azaph. Lancez des cris d'allégresse vers Dieu, votre force. Acclamez joyeusement le Dieu de Jacob. Ouvrez le concert. Frappez sur le tambourin. Pincez la lyre harmonieuse, jouez sur le luth. Embouchez le cor au début du mois, la pleine lune, au grand jour de fête. C'est une loi pour Israël. C'est une ordonnance du Dieu de Jacob. C'est un décret qu'il a établi pour Joseph. J'entends un langage que je ne connaissais pas. J'ai déchargé tes épaules du fardeau et tes mains sont libérées de la corvée des corbeilles. Tu étais dans la détresse. Tu m'as appelé, je suis venu pour te délivrer. Je t'ai répondu du sein de l'orage et je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Meriba. Alors je t'ai dit, écoute, ô mon peuple, je vais t'avertir. Ah, si seulement tu m'écoutais, Israël, tu n'aurais chez toi aucun autre Dieu, tu n'adorerais aucun des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre largement la bouche, je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai abandonné à son fol entêtement et ils n'ont fait que suivre ce qui leur plaisait. Si mon peuple m'écoutait, et si Israël marchait sur les voies que j'ai prescrites, je ferais en un instant plier tous ses ennemis, ma main se tournerait contre ceux qui les oppriment, et ceux qui, pour l'Éternel, n'ont que de la haine, lui rendraient hommage, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirais du miel, de froment, je les rassasirais du miel d'abeilles sauvages. C'est le psaume 81. Son auteur, Asaph. Alors, 12 psaumes, Asaph est connu, 12 psaumes lui sont attribués à lui ou à sa famille. Asaph est un contemporain de David. Il a sa place dans l'organisation imaginée par David pour le service du culte de l'Éternel, le tabernacle d'abord, le temple ensuite. Et David n'avait pas lésiné sur les moyens. 38 000 lévites pour ce service, le service du culte. Et parmi eux, 4 000, alors là je cite David, qui auront la tâche de louer l'Éternel avec les instruments de musique que, dit-il, j'ai fait faire pour ça. Donc la spécialité d'Asaph, c'est la musique. Musicien lui-même, il jouait des cymbales, et sera nommé par David au poste de responsable musical du culte, et tout particulièrement pour la direction du chant. Et notre psaume le prouve, il sera aussi à 16 heures compositeur, d'où la consigne destinée ce jour-là au chef de chœur pour l'accompagnement. Bon, notre psaume est donc un texte destiné à être dit par le chant et accompagné d'instruments, un cantique, pourrait-on dire, pour dire précisément quelque chose, pour exprimer quelque chose, le chant et la musique venant en renforcer le sens. Mais un cantique aussi pour entendre quelque chose, forcément. Parce que ce qui est dit à quelqu'un, est destiné à être entendu, comme un écrit est destiné à être lu, une chanson ou un concert destiné à être écouté. Ce psaume est particulièrement révélateur de ce double mouvement lié au culte, dire et entendre. Alors, trois strophes dans ce psaume pour en fixer aisément le plan, que je résume de cette manière. Première strophe, réjouissez-vous. Deuxième strophe, souvenez-vous. Et troisième, écoutez-moi. C'est Dieu qui parle, bien sûr. Strophe 1, réjouissez-vous. Appel lancé à tous, au peuple d'abord. Lancez des cris d'allégresse vers Dieu votre force. Acclamez joyeusement le Dieu de Jacob. Un appel à accueillir Dieu dans la joie, parce que Dieu lui aussi vient au rassemblement de son peuple. Au peuple, au cœur des Lévites aussi, aux instrumentistes. Ouvrez le concert, frappez sur le tambourin, pincez la lyre, jouez sur le luth. Et aux sacrificateurs, enfin, embouchez le corps au début du mois, la pleine lune, au grand jour de fête. Il semble en effet que l'usage des trompettes était spécialement confié aux prêtres descendants d'Aaron et réservé à quelques situations bien définies. Appel à tous. Appel à la joie. Ce cantique est un cantique de fête. Quelle fête? La Pâque peut-être, mais nulle évocation ici de la sortie d'Égypte, seulement du jugement de Dieu sur ce pays. On penche plutôt pour les fêtes qui faisaient la transition entre la fin d'année et le début de l'an nouveau. Au premier jour, jour de pleine lune en particulier, de nouvelle lune, pardon, on sonnait du cor. 10 jours plus tard, c'était le Yom Kippour, et 5 jours après, à la pleine lune, c'était la fête des tabernacles. Et cette fête était manifestement la plus joyeuse de toutes. C'était la fête de la récolte. Elle avait lieu en octobre, on avait fini les moissons, on avait ramassé les fruits, traité la vendange. Et là, pendant 7 jours, on vivait dans le jardin ou sur le toit, en terrasse, sous des tentes ou des huttes de branchage. On fêtait ainsi, après la période du désert, les bienfaits du pays promis. Nul doute que s'il faut évoquer une fête à laquelle notre psaume convient bien, c'est celle-ci, et par son ampleur aussi, quant au rassemblement de tout le peuple. Quant à sa durée, et quant à l'immense bonheur et l'immense reconnaissance, née des bénédictions de Dieu. Et le psalmiste de rappeler ici l'origine de ce temps de bonheur, versets 5 et 6. C'est une loi pour Israël, une ordonnance, dit Dieu de Jacob, un décret qu'il établit pour Joseph. Une loi, une ordonnance, un décret. Bon, trois mots qui sont synonymes, bien entendu. Une manière pour l'auteur d'insister, et en insistant, d'en souligner l'importance. Il faut ici peut-être s'étonner, parce que ces mots de loi, d'ordonnance, de décret, ne sont pas les mots qu'on choisirait pour un temps d'allégresse, de joie, de fanfare, quasiment. Et pourtant, la reconnaissance ne s'impose-t-elle pas avec la force d'une obligation? Est-ce que nous n'avons pas envers notre Dieu une véritable dette de reconnaissance, un véritable devoir de reconnaissance? Il faut donc aussi s'émerveiller. Qui donc a eu l'idée d'une loi pareille? Dieu en personne. Et pour qui l'a-t-il voulu? Pour son peuple. C'est ainsi qu'il a tout organisé. Il a prévu des moments, des lieux privilégiés, parce que ces réjouissances exigent le rassemblement des siens, donc un jour précis, une heure précise, peut-être un endroit déterminé. Tel le culte aujourd'hui? Certes, on peut louer Dieu, on le sait, on peut louer Dieu n'importe où, n'importe quand. Dieu est toujours prêt à nous rencontrer, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance. Mais aujourd'hui encore, il doit y avoir des moments convenus, des lieux communs, pour que nous nous réunissions pour parler de Dieu et pour l'entendre. Rien ne peut s'y substituer. Dieu convoque toujours son peuple. C'est la loi. C'est un élément de notre statut de chrétien. Une ordonnance du Seigneur, un décret établi. Et Dieu n'a pas seulement organisé l'événement, ordonné l'événement. Je dirais en quelque sorte qu'il a fourni la marchandise. Il peut paraître curieux, voire difficile, de devoir se réjouir comme ça du 6 au 12, par exemple, et de surcroît tous ensemble à ce moment. Mais c'est que Dieu, qui nous demande de venir lui dire notre joie, nous donne aussi toutes les raisons d'être heureux. Notre reconnaissance, il l'alimente lui-même, ouvrant largement les robinets de toutes ses bénédictions. Et la plus grande d'entre elles, bien sûr, est le salut qu'il nous accorde. Aucun mérite pour nous, tout par grâce. C'est lui qui a l'initiative, nous délivrer de l'ennemi, et qui en Jésus nous offre son pardon, source éternelle de bonheur et de reconnaissance. Oui, notre reconnaissance joyeuse, il faut la lui dire. Et là, j'utilise la traduction des premiers versets en français courant. Acclamez-le. Faites donner la musique. Allez-y pour les tambourins, la harpe et le luth. Ben, on était un peu juste ce matin, mais bon. On l'a fait avec le même cœur, sans aucun doute. Strophe numéro 2, souvenez-vous. Puisqu'on a évoqué la musique d'ensemble, on pourrait appeler cette deuxième strophe le deuxième mouvement. La première strophe, premier mouvement, c'était l'allegro vivace, tonique, brillant, aux fortes sonorités. Et maintenant, c'est le mouvement lent. Alors, je sais pas vous, mais dans les concertos, le mouvement lent, pour moi, c'est le plus beau. Surtout si je pense à Mozart ou à Beethoven. L'orchestre se fait discret, et le soliste intervient. Et il exprime quelque chose de profond. Il crée une impression, et bien souvent, il parle au cœur. Tel le psalmiste qui dit ici, verset 6, « J'entends un langage que je ne connaissais pas. Les chœurs et les instruments se sont tus. Le psalmiste lui-même semble en perdre la voix, semblant aussi tendre l'oreille, parce que une autre voix se fait entendre à lui, et le voilà qui écoute cette voix, et les paroles qu'il va dire, ce sont les paroles qu'il entend. Les paroles d'un autre, mais des paroles pourtant inscrites dans l'histoire de son propre peuple. Et ce sont les paroles de Dieu. Ah, Dieu, le super soliste de l'histoire. Et j'écris histoire avec H majuscule, bien sûr. Deux mots, en quelque sorte, par lesquels Dieu leur dit, Dieu nous dit, souvenez-vous. Et suit alors un bref résumé de quelques événements liés à la sortie d'Égypte et à la période du désert, en trois étapes. Étape pour nous faire souvenir aussi des événements de notre propre vie. J'ai déchargé ton épaule du fardeau. tes mains ont lâché la corbeille. Le fardeau, la corbeille. Image expressive des corvées sous lesquelles le peuple succombait en Égypte, assujetti par le pharaon à fabriquer des briques, et en quantité de plus en plus grande, vous connaissez l'histoire, et la terre nécessaire à cette fabrication, il la transportait dans de grands paniers, des corbeilles, et il n'en pouvait plus. Et puis un jour, plus de paniers, plus de fardeaux. Libérés par Dieu, ils partent, conduits par lui, vers un beau et bon pays. Ouah ! Tu étais dans la détresse. Tu m'as appelé. Je suis venu pour te délivrer. Je t'ai répondu au sein de l'orage. Oh, des délivrances, il y en eut bien d'autres, après celle de l'Égypte, bien d'autres réponses de Dieu aux appels des siens. L'orage, le tonnerre suggère peut-être ici le passage de la mer Rouge, à sec et protégé, éclairs et foudres jaillissant de la nuée et jetant le désordre dans l'armée égyptienne, à moins que ce soit le Sinaï. Bref, réflexion ici sur les épreuves, parce que les épreuves évoquées ici, ce sont les leurs. Et dans ces difficultés, réflexion sur la réalité du secours de Dieu. Nulle énonciation ici d'un principe théorique, mais des exemples vécus. La puissance de Dieu comme sa bonté envers nous ne sont pas des inventions de notre système philosophique, idéologique, voire religieux, avec lesquels nous tenterions de faire coïncider les circonstances. Non. Ce qui atteste dans notre vie de la force et de l'amour de Dieu, ce sont les événements vécus. Ce sont les bienfaits reçus, vraiment reçus. Ce sont les cris entendus. Ce sont les délivrances accordées parce que Dieu est vrai, vivant, véritablement puissant et véritablement bon. Dernière évocation, c'est la fin du verset 8. Et comme s'il y a un petit truc à pas oublier là. Et je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Meriba. Meriba, c'est l'endroit du désert où il n'y a pas d'eau. Et où Dieu, cette fois-ci, ne répond pas encore à la soif de son peuple. Et le désespoir est tel qu'on regrette l'Égypte, qu'on se met à s'attaquer à Moïse. Non, Dieu n'est plus celui que nous avons connu. Il ne répond pas. Et on se détourne de lui. Meriba, c'est pas seulement une délivrance. Lorsque Dieu dira à Moïse de frapper le rocher pour en faire sortir l'eau qui assurera leur survie. Meriba, c'est aussi la confiance perdue quand Dieu ne répond pas à notre moment. Meriba, et Dieu ici utilise le mot, c'est l'épreuve. L'épreuve qui constitue le test de Dieu. Je t'ai mis à l'épreuve. Le test de notre foi. Et toutes les épreuves sont ainsi. Des moments où Dieu nous observe, nous entend, ne répond pas, mais son silence a la valeur d'une question. Alors, tu fais quoi? Tu vas te mettre à douter? Tu vas accueillir l'adversaire qui profite de cette situation pour tenter sa chance dans ta vie? Dis-moi, est-ce que oui ou non, tu maintiens ta confiance en moi? Il y a une pause. Il y a le mot pause dans notre texte. On ne sait pas trop à quoi il était utilisé, mais ça pourrait être un temps de réflexion sur le bonheur des délivrances et sur les faiblesses de notre foi. Strophe 3. Écoutez-moi. L'exhortation de Dieu à l'écouter. De nouveau aujourd'hui, ou disons aujourd'hui mieux qu'hier. Verset 9. Écoute, ô mon peuple, je vais t'avertir. Ah, si seulement tu m'écoutais. Écoute, ô mon peuple. Puisque c'est Dieu qui le dit, ce sont ses paroles. Parce que Dieu parle encore, malgré toutes les défaillances. Si c'est Dieu qui le dit, alors c'est qu'un avenir reste possible malgré Mériba. Rendu possible précisément par une analyse honnête du passé. La clé, ne surtout pas l'oublier, ne surtout pas l'effacer. Le passé, dans toute sa réalité, la réalité de ses secours, certes, la réalité aussi des fautes et des défaillances. C'est, me semble-t-il, une invitation au courage. On lui préfère souvent la pratique du camouflage. On cache les fautes quand on ne va pas jusqu'à les nier. On cache aussi, du même coup, les bénédictions du passé. On appelle cela aussi la fuite en avant. C'est-à-dire qu'on avance comme si rien ne s'était passé. Le passé est passé, dit-on. Sans aucun doute. Mais c'est à y réfléchir qu'on peut avancer. Pas en faisant mine de l'ignorer, pas en écrivant une autre histoire que l'histoire vraie, qui devient alors invariablement un mensonge. Le terrain, par contre, étant alors assaini, alors là, on peut construire quelque chose dessus. Écoute, ô mon peuple. En quelque sorte, Dieu dit, tu me parles. Moi aussi, je te parle. Tu m'as appelé, je t'ai répondu. Moi aussi, je t'appelle à la confiance, j'en appelle à ta fidélité, que me répondras-tu? Nous souhaitons tous, bien entendu, être écoutés de Dieu. Nos prières en sont pleines de cette orientation-là. Mais Dieu nous dit aussi qu'il souhaite que nous l'écoutions. En somme, comme dans un bon contrat, dans une belle alliance, dans une espèce d'équilibre, autant nous attendons de lui, autant il attend de nous. Cela nous convient bien probablement de nous définir, nous aussi, comme le peuple qui appelle et Dieu lui répond. Ce sont les mots de la première strophe. Ouais, moi, ça me plaît bien de me dire qu'on peut se définir comme ça. Il convient alors de nous reconnaître aussi, et là, c'est clairement Dieu qui le demande, comme le peuple que Dieu appelle et à qui il convient de répondre par la fidélité et la confiance. Ah, si seulement tu m'écoutais. Vous avez remarqué le conditionnel, hein? Si. Parce que l'un est la condition de l'autre. C'est vrai d'ailleurs dès la première démarche de foi que l'on peut faire dans la vie. Il me semble même que parfois, nous nous mettons à parler comme Dieu ici. Vous pensez à l'un ou l'autre de vos proches qui refuse encore sur sa vie l'influence de Dieu, le salut de Dieu, et vous dites cela? Si seulement il écoutait. Et vous le savez bien, parce que si seulement il ouvrait la porte à Dieu, Dieu entrerait chez lui. Et c'est ainsi, la vie durant, Dieu est toujours prêt à répondre, à décharger, à délivrer, à donner, à bénir, pourvu. Et c'est une condition que nous soyons prêts à l'écouter, à nous laisser guider, à le suivre, à recevoir de lui ses bienfaits et aussi ses directives. Et si seulement, et si nous le disions aussi pour nous-mêmes, et si nous écoutions Dieu dans tout ce qu'il nous dit, nous qu'il a entendu, qu'il a délivré, à qui il a répondu, et si nous nous mettions mieux à accepter ce qu'il demande dans un domaine ou l'autre, et que nous l'aurions jusqu'ici refusé. Si tu m'écoutais, on n'en finirait plus, hein. Si tu m'écoutais, un nouvel horizon possible, parce que dans ces conditions, Dieu sait ce qu'il ferait, et il s'empresse de l'annoncer. Si mon peuple m'écoutait, j'aurais bientôt humilié leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs oppresseurs, je les nourrirai, fleurs de froment, je les rassasirai du miel des abeilles sauvages. Vous avez remarqué, je, dit Dieu, promesse de nouvelles bénédictions, et qu'une image résume au verset 11, elle n'est pas projetée, mais elle est une image significative, ouvre largement ta bouche. Je la remplirai. Écoute, ô mon peuple, si seulement tu m'écoutais. Nous concluons ici. Avez-vous enfin remarqué le ton? Alors bien sûr, le ton, on le donne pas quand, on le sent pas quand on lit, on le dit quand on parle. Mais franchement, est-ce qu'on peut lire cela, dire cela sur un autre ton? Au point qu'on se demanderait volontiers si c'est vraiment Dieu qui parle. Y trouvez-vous le ton du commandement, le ton de la loi, l'expression de la menace? Rien de cela. Parce que tel est Dieu. Tel est notre Dieu. C'est du genre, mon peuple, voilà, je vais te dire ce dont je rêve pour toi. Je rêve du peuple que tu pourrais être. Et moi, quel Dieu je serais encore pour toi. C'est le ton de la supplication. C'est l'expression d'un père, d'une mère. L'évangile est dans ce psaume. Parce que dans ce psaume s'exprime l'amour de Dieu. En prolongeant jusqu'à l'évangile, vous pouvez y retrouver Jésus pleurant sur Jérusalem. Car il était trop tard pour Jérusalem. Sans nul doute, c'est par amour que Dieu nous dit « Réjouissez-vous ». Par amour qui nous dit, souvenez-vous. Par amour qui nous dit, écoutez-moi. Amen.